Bonjour et bienvenue sur Radium, donc à notre rendez-vous quotidien. Du coup, nous sommes dans l'émission Remue-Ménage et avec la participation des personnes qui viennent de l'hôpital de jour des Iris et d'Ilis. Donc je vais laisser présenter les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc moi c'est Laurence déjà.
Moi c'est Leïla.
Moi c'est Fatia.
Moi c'est Christian.
Moi c'est Karine.
Et moi c'est Patricia.
Et moi c'est Guillaume à la technique.
Et bonjour à tous, c'est Julie.
Donc aujourd'hui, avec le soleil, on a eu envie d'aborder le thème de la nature, des jardins, puisqu'en plus, il y a eu le marché aux fleurs le week-end dernier à Castres, au parc Gourjade. Du coup, Karine, vous y avez été, vous ?
Ouais, effectivement, ouais. Mais j'ai vu diverses variétés de fleurs, même des bonsaïs. C'était vraiment sympa. Et des créateurs de bijoux, qui étaient sur le thème des fleurs. Enfin, il y en avait une qui était sur le thème qui avait fait des bijoux sur le thème des fleurs.
D'accord. La nature dans tous ses états, même au niveau de l'artisanat.
Ouais.
Et c'est pour cela que vous avez succombé à une paire de boucles d'oreilles.
Ah ouais, un collier. Avec des coquelicots. Enfin, le collier que je ne porte pas là, mais je me suis acheté la parure, moi.
La parure complète, d'accord. C'est vrai qu'on commence à voir des coquelicots dans la nature. Mm. Bon, donc vous avez passé un bon moment.
Ouais. Et il y en avait même un vendeur de casquettes. Au moins, il y avait de tout.
D'accord, c'est un marché, mais de tout, finalement.
Ouais.
Ok. Oui, Guillaume.
Oui, il y avait aussi une visite des bords de la Goutte pour savoir la faune et la flore sur la Goutte qui durait 1h30.
D'accord, donc une visite guidée pour la découverte.
Avec un botaniste de la mairie.
Et vous y avez participé ?
Non, ma femme y a participé.
D'accord.
Et son retour, est-ce qu'elle vous en a parlé un peu ? Est-ce qu'elle a trouvé ça intéressant ?
Oui, elle a trouvé ça très intéressant.
Ça permet du coup d'apprendre des choses sur un petit peu la végétation qui nous, et peut-être le monde animalier qui nous entoure, plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ignore.
Oui, ça permet de savoir aussi que la mairie est engagée dans une politique sans pesticides.
D'accord, vous savez un peu en quoi ça consiste ?
Non, pas trop, on n'a pas trop parlé de ça.
Déjà, on a pu voir sur Castres qu'il pratique plus le désherbage chimique qui brûle les mauvaises herbes. Je ne sais pas si quelqu'un les a vus avec des énormes chalumeaux là et si. Il brûle tout ce qui est mauvaises herbes.
Oui, il brûle et il bine aussi.
D'accord, là, dans les
trottoirs.
Oui, les trottoirs et puis pareil, là où on voit les plantations de fleurs et tout ça, on voit qu'ils le font aussi.
Oui, d'ailleurs, c'est pas que sur Castres, hein, puisque sur la Bruguière, pareil, le centre de on fait participer les jeunes pour arracher les herbes qui jonchent les trottoirs de la ville. C'est une façon aussi de prendre conscience qu'il faut qu'on s'occupe de notre ville et des plantations aussi. Alors à Castres, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ronds-points avec beaucoup de fleurs. Moi, ça me surprend toujours de voir. Alors c'est très beau, hein, et c'est aussi très agréable. Et voilà, il y a toujours une interrogation par rapport à ce que ça peut coûter. Il y a aussi des paysagers, hein, autour de ces ronds-points. Enfin, en tout cas, c'est très beau. Est-ce que vous voulez?
Après, il n'y a pas une loi qui est passée qui dit aux villes qu'elles ne doivent plus mettre de pesticides ?
Si, sur le glyphosate.
Est-ce que quelqu'un a envie d'évoquer ce thème-là, des plantes ? Est-ce que, je crois, Leïla, vous nous parliez de votre première expérience de potager ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ?
Tout le monde va se foutre de moi.
Mais non, mais votre expérience peut servir à d'autres personnes, c'est intéressant.
Alors, j'ai commencé un potager en permaculture. Bon, ça, ça va. Par contre, je suis allée acheter des plants pour mettre dans mon potager des légumes. Et quand j'ai acheté les salades, comme c'est la première fois que je plante des salades, j'avais pas capté qu'en fait, dans une barquette, il pouvait y avoir 12 ou 20 ou 15 plants de salade. Donc moi, je suis tombée sur des barquettes de 12 et je pensais que c'était une salade. Donc du coup, j'ai acheté 3 barquettes, ce qui fait 3 fois 12. J'avais pris 2 fois la même variété et une fois une autre variété. Et en fait, du coup, j'en ai planté en tout 24. Et les 12 autres, comme j'avais pris 2 fois de la Batavia, bon, ça s'était fait exprès, mais c'est parce que je pensais qu'il y avait qu'une salade à chaque fois. Donc, je pensais me retrouver à planter 3 salades en tout, alors qu'en fait, bah, il y en avait 12 dans chaque barquette. Donc, voilà. Donc, j'ai donné une barquette à une voisine et j'ai planté du coup 24 salades dans mon potager en permaculture, ce qui fait que ça a pris beaucoup de place, mais j'ai réussi à planter tout ce que j'avais acheté quand même.
D'accord, donc du coup vous allez pouvoir manger de la salade.
Ouais, et en plus le compte du compte, c'est que c'est pas mon fort la salade.
D'accord, mais bon.
C'était surtout pour les donner.
Ah ben voilà, vous allez pouvoir faire plein de générosité puisque vous en avez déjà donné 12 à la voisine. Hein. Et du coup, il y a un mot de la permaculture. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la permaculture ?
Je demande à Guillaume, il sait mieux l'expliquer que moi.
Alors, la permaculture, c'est le fait de faire son jardin sans retourner le sol et sans pesticides, en apportant de l'azote et en apportant du carbone via des branchages et via du BRF.
Du BRF.
Bois raméal fragmenté.
Qu'est-ce?
C'est toutes les jeunes pousses qui sont des arbres ou des qui sont broyées pour mettre en paillis sur le sol.
Et vous l'achetez tout prêt, ça, ou c'est vous qui le faites?
Non, là, c'est moi qui le fais avec ma femme. On le fait via une broyeuse qu'on a eue à notre mariage.
Joli cadeau de mariage, hein. Du coup, je me dis, il y a une longue préparation de la terre avant d'arriver à la plantation.
En fait, il y a différents types de cultures. Il y a la culture sur butte où vous mettez beaucoup de bois au fond, de l'azote au-dessus, c'est-à-dire des tombes de pelouse ou des fleurs ou en fait tout ce qui est vert. Vous mettez du terreau et du fumier, et après vous plantez directement.
Mais la terre, elle est où dans tout ça?
Ben, c'est le terreau et le fumier qui vont faire la terre en se décomposant.
D'accord. Vous, Leïla, pour une
moi,
première, j'imagine.
Moi, je l'ai fait donc pas sur but. Moi, j'ai fait la méthode millefeuille.
Oui, en lasagne.
Voilà.
Alors c'est quoi
on
la
méthode? Une couche, par exemple moi je l'ai fait directement sur la terre, donc j'ai préparé un bac que j'ai fabriqué avec ma tante, et puis dans le bac donc je l'ai mis directement, donc il n'y a pas de fond, j'ai mis comme il a dit, donc du coup du bois, enfin de la sciure de bois, enfin une espèce de truc qu'on m'a donné, enfin c'était que de la récupération, de la tonte de pelouse, j'ai fait des couches en fait avec la tonte de pelouse, avec du paillage, avec des feuilles, avec des branchages, etc. J'ai fait des couches comme ça, et puis de la terre que j'ai récupéré dans le jardin, qui était déjà en période de décomposition. J'ai été obligée de rajouter du terreau quand même, parce que je n'avais pas suffisamment de matière pour pouvoir planter.
Et comment vous avez connu tout ça, en fait? Comment
Par ma tante, par ses amis. Depuis que j'habite dans le sud, ma tante fréquente des personnes qui sont assez proches de la nature, qui cultive de manière assez saine Et ma tante habite en Meuredon, la Bessonnier. C'est beaucoup de champs là-bas. Enfin, c'est la campagne, quoi. Donc, du coup, je connaissais cette pratique depuis pas mal de temps. Et je m'étais dit, vu que j'habitais dans un appartement jusqu'à présent et que maintenant je suis dans une maison, je m'étais dit, bah, si j'ai l'occasion de faire un potager, bah, je voudrais le faire en permaculture. Et du coup, je me suis renseignée. Moi, j'avais parlé un peu avec Guillaume aussi. J'avais posé des questions et puis voilà, je me suis renseignée, j'ai posé des questions autour de moi à d'autres personnes et puis je me suis lancée. Après, je l'ai fait, voilà, comme ça.
Donc pour l'instant, vous cloisonnez un peu, si j'ai bien compris, dans un bac. Oui. La prochaine étape, vous y pensez à faire plus grand en fonction de ce que ça donne cette année?
Je vais voir déjà ce que ça donne cette année. Mais l'idée du bac, c'était par rapport à ma chienne parce qu'elle retourne de tout. Dès que je commence à planter une fleur ou quelque chose, hop, la terre est fraîche, elle gratte, elle retourne tout, elle me déplante tout. Alors je m'étais dit qu'avec le bac, j'ai fait une certaine hauteur quand même. Sauf que ma chienne, elle va quand même dans le bac. Ouais. Elle saute, elle va dans le bac. Non, mais...
Ah, faudra faire un bac plus haut l'année prochaine. Et du coup, oui, hein, une fois que c'est planté, on ne touche plus, on attend que ça pousse.
On attend que ça pousse, il n'y a plus qu'à arroser.
Mais du coup, beaucoup moins qu'un jardin lambda, plein de terre, puisqu'il y a le paillage et tout qui retiennent l'humidité, j'imagine.
C'est ça.
Et il y a beaucoup moins de mauvaises herbes aussi, ou il y en a beaucoup plus?
Il n'y a plus de mauvaises herbes du tout.
D'accord.
Grâce au paillage.
D'accord. Et zéro pesticides, engrais,
oui. Zéro pesticides, zéro engrais.
Oui. Voilà, il n'y a pas les granules chimiques.
Non.
Et alors les limaces, comment vous les éloignez, les limaces?
Bah, moi, je les poule, qui les mange. Sinon, il y a des pièges à bière.
Mais les limaces, les poules mangent les limaces, mais les poules ne mangent pas les salades?
Non, elles ont tendance à les déterrer, mais cette année, on a été plus intelligents qu'elles. On a mis des grillages sur toutes nos parcelles de culture, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas gratter.
En fait, c'est ça, d'année en année, et plus on pratique, et plus on apprend de choses, j'ai l'impression, d'une façon dont...
C'est ça.
Non,
moi, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Là, c'est la première année, donc je ne m'attends pas à ce que ce soit extraordinaire. Je voulais commencer petit pour voir comment on peut faire un peu la main. Je pense que l'année prochaine, déjà, en plus, c'est le bac, il aura été plus préparé, enfin, il aura plus travaillé. Là, c'est tout nouveau... Après, il sera beaucoup plus enrichi, donc du coup, je pourrais oser plus de choses. On peut très bien mettre des fleurs. Je ne sais pas si c'était toi qui m'avais dit les tournesols pour les tuteurs de tomates.
Ouais, les tournesols et les maïs pour les tuteurs de tomates avec les hypomées qui permettent aux tomates de se lier au maïs ou au tournesol.
Du coup, donc là, Guillaume et Leïla nous font part de leur expérience. Ceux qui pratiquent pas autour de la table, est-ce que ça vous intéresse? Ça vous donne envie de vous y pencher? C'est beaucoup trop de travail? C'est quoi un petit peu vos réflexions par rapport à ça? Patricia, vous voulez prendre la parole?
Moi, j'aimerais jardiner, mais seulement j'ai pas de jardin à la maison. J'aimerais aux iris faire un jardin, un petit jardin pour cultiver des plantes ou des légumes. Et souvent, à Roquecourbe, ils amènent des fleurs et on les met dans les jardinières.
Alors c'est ça, vous disiez que vous n'aviez pas de jardin, mais est-ce que vous n'avez pas un balcon ou une terrasse ou une petite cour?
Non du tout, c'est juste là où il y a les fenêtres avec les volets, on peut poser les jardinières au-dessus.
Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un grand potager, peut-être ça permet à une jardinière de mettre un pied de tomate sur une autre fenêtre, un pied de basilic.
Vaut mieux mettre ça dans un pot parce que le pied de tomate, il va faire ses racines et si vous voulez le garder pendant les 5 mois où il va vivre, vaut mieux le mettre dans un pot de 10 cm au moins.
D'accord. Vous voyez, en plus, on a des petites astuces et techniques autour de la table. Donc,
Oui, par contre, on peut y mettre des plantes aromatiques, du basilic, un peu de persil.
Oui.
Dans les jardins, dans les petites jardinières. Alors, Christian, vous avez fait votre jardin, vous aussi. Vous avez une expérience, une petite expérience.
Oui. Oui, une expérience. J'étais avec une copine, on a fait du jardin. Ça marchait bien, mais comme je faisais beaucoup de déplacements, j'ai arrêté. Puis après, je suis allé à UPC, j'ai fait du jardinage avec Didier. On a fait la paraculture. Après, je sais pas ce que ça va donner, parce que je ne sais plus.
D'accord. Alors, ce que vous voulez renvoyer, c'est qu'on... Un jardin, il faut y être pour s'en occuper.
Il faut y être parce que ça prend du temps. Hein. Il faut y être tous les jours. Désherber, arroser.
Et encore, comme disait Leïla ou Guillaume, avec le principe de la permaculture, finalement, il suffit simplement d'arroser. Après, on ne touche plus. Donc,
Oui, non, mais...
Mais il faut quand même arroser.
Il faut arroser, il faut être là.
Tous les jours, vous arrosez, Guillaume ?
Non, toutes les semaines.
Une fois par semaine ?
Une fois par semaine, oui.
D'accord.
Ouais.
Donc, en fait, mettez-vous à la permaculture.
Ah ouais.
Si vous voulez faire votre jardin.
C'est économique.
Après, voilà, on a parlé des insectes. Je sais que la coccinelle, les abeilles, voilà, c'est bon aussi. Hein. Et de plus en plus, on voit... dans les jardineries ou autres, des petites maisons à insectes, les maisons pour les oiseaux. Donc, il y a le terreau, mais il y a aussi, à l'extérieur, prendre soin de notre écosystème. Et vous en parliez, on parlait des nuisances par rapport aux limaces, hein, tout à l'heure. Mais il y a des insectes qui sont bénéfiques, hein, pour les plantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Guillaume ?
Oui, il y a quelques insectes qui sont bénéfiques, mais au final, tous les insectes sont bénéfiques parce que oui, ils vont servir de nourriture aux oiseaux qui vont nous apporter leurs graines, ou ils vont servir de pollinisateurs pour les fruitiers, pour les plantes courgettes, les plantes tomates, la bourrache, etc., quoi.
Dans notre écosystème, c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. C'est chaque espèce d'insecte a une fonction qui apporte ainsi de suite à une autre espèce.
D'où l'importance de l'équilibre de cet écosystème et de préserver justement toutes les espèces.
Oui, hein, tout à fait, oui.
Et en fait, de plus en plus, on se rend compte que pour produire beau, en grand et tout ça, dans sa façon de cultiver, l'homme n'a pas forcément pris de bonnes habitudes. Il a déforesté, il a désherbé. Et petit à petit, de plus en plus, avec l'agriculture biologique et le respect de l'environnement, j'ai l'impression que les mentalités changent malgré tout.
Oui, les gens vont de plus en plus vers le bio. Et l'agriculture intensive, mis à part dans le pays de Beauce, sinon les gens recommencent à planter des haies aussi pour amener les oiseaux, pour amener les insectes et les différents petits rongeurs.
Oui, je voulais dire que c'est vrai qu'on a de plus en plus conscience de cette préservation, quoi, de l'environnement, mais il s'avère qu'elle touche que certains pays de l'Europe, hein, parce que dans beaucoup de pays du monde, ils sont pas à l'heure du progrès, et il s'avère que en Amazonie il y a un danger. Ils ont ceux qui s'occupent des plantations de forêt, ils ont poussé un cri d'alarme en disant que la déforestation était de plus en plus menaçante en Amazonie et que les gens, ils avaient tendance à cultiver à outrance, et que malgré les dangers qui faisait surface, hein, ils s'en foutent, quoi.
C'est pour ça qu'il faut prendre un moteur de recherche comme Ecosia. C'est un moteur de recherche allemand qui plante des arbres au lieu de faire de la publicité. Et il plante des arbres en Afrique et en Amazonie.
Ecosia, comment vous l'écrivez ?
E-C-O-S-A-S-I-A.
D'accord. Ce que vous disiez, c'est effectivement, par rapport aux plantations d'huile de palme, on voit, hein, il rase tout pour mettre ces palmiers, oui, là, qui rapportent beaucoup d'argent. Après, malgré tout, il y a quelques années en arrière, c'était le monde entier qui était dans la surconsommation, la surproduction, l'exagération. Plus il y aura de pays qui vont prendre en compte et qui vont modifier leur façon, et plus ça, on va prouver que c'est possible, et plus ça donnera envie aux autres de le faire. Donc, faut pas baisser les bras, faut y croire, chacun à sa façon. Il faut, mais voilà, ce qu'on fait là, en parler, la permaculture, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas, ça permet de faire découvrir et de montrer que c'est possible, en fait.
Oui, il y a un jeune là qui voyageait, en fait, il s'est rendu par voie de bateau sur plusieurs pays du monde, et à chaque fois il fait une escale, et dans les écoles il va et il fait il témoigne, enfin il fait un cours sur les dangers de la nature d'aujourd'hui, quoi, qu'en cours la nature.
Oui, parce que les enfants d'aujourd'hui dans le monde entier seront les adultes consommateurs de demain.
Voilà, tout à fait, c'est ça.
Et c'est auprès de ce public-là, je pense, qu'il y a possibilité d'agir.
Ouais. C'est ça, ouais.
Après, effectivement, en Europe, là, comme vous disiez, on en prend conscience, mais je pense que vous parliez de l'Amazonie, les populations sont en souffrance là-bas. Ils délocalisent, je me dis, peut-être des peuples autochtones. Il doit y avoir beaucoup plus de problèmes d'inondation, puisqu'il y a beaucoup moins de forêts. Enfin, c'est tout l'écosystème, beaucoup d'animaux qui sont en voie de disparition, d'extinction, et tout ça parce que l'huile de palme voilà, rapporte ça. C'est aussi, on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais tous, à notre petite échelle, on peut faire de cette façon-là. Si tout le monde boycotte l'huile de palme, ils arrêteront d'en produire. Donc, tout le monde, à sa petite échelle, peut faire des choses.
Oui, mais comme c'est les grands de ce monde qui commandent, je ne crois pas qu'on puisse faire... Enfin, je ne suis pas trop d'accord avec vous, Julie. Je ne pense pas qu'on puisse agir énormément, parce que... Les savants, les gens de intellectuels, tout ça, même s'ils se battent, ils se battent contre un mur, quoi.
Certes, mais nous, en tant que consommateurs, on peut faire des choix. Au lieu d'aller chez Ikea, par exemple, où on a des meubles aussi qui sont fabriqués à partir de forêts de pays européens, j'en dirai pas plus. Eh bien, on peut très bien faire de la récupération, recustomiser, repeindre, etc. Enfin, voilà, je pense que tout un chacun, on peut, à notre niveau, être un consommateur averti et consommer différemment.
D'accord, mais encore faudrait-il être un consommateur conscient de ces dangers-là. Moi, je pense qu'avec, à l'heure actuelle, avec la vie qu'on mène, on est plus pris dans le flot du stress, de la consommation de massive, tout ça, et on n'a pas de temps à louer pour se poser la question à savoir si on consomme bien ou pas. Je crois qu'il y a très peu de consommateurs qui sont avertis, quoi.
Guillaume, vous vouliez rebondir, je crois.
Oui, mais je suis un consommateur averti et au lieu de m'acheter le dernier smartphone à la mode, j'achète des arbres pour les planter chez moi. Et il y a possibilité aussi d'avoir des jardins partagés où on peut planter des arbres ou même sur les ronds-points, pourquoi pas, ça appartient à tout le monde de planter des arbres aussi.
Ouais, mais t'es un consommateur averti, mais un sur combien ?
Ça, je sais pas, mais il faut en parler pour que les gens décident à regarder un peu plus les étiquetages et qu'ils consomment différemment. Aller moins souvent au supermarché, préférer les produits locaux.
Et puis c'est où aussi on en est par rapport à tout son environnement, à plein de choses. Vous disiez pas, vous parliez de stress. Effectivement, peut-être il y a des périodes où on est trop stressé, où on n'a pas envie de se prendre la tête avec notre façon de consommer. Mais c'est pas grave, on l'a dans un coin de la tête. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis pas prête à changer ma façon de consommer, mais au fond de moi, je le sais. Peut-être que quand ma vie sera posée, que je serai en capacité de, je modifierai à ce moment-là ma façon de consommer. Il ne faut pas se dire tout est perdu, tout est noir, parce qu'à ce moment-là, voilà, on fait n'importe quoi, on continue, on s'en fout, notre planète, elle va mourir. Et...
Oui, tout à fait, Julie, mais en ce sens que le progrès a ses limites. Hein. Et à ses côtés néfastes. Donc, même si on part d'un bon principe, d'une pensée philosophique, à se dire qu'il faut préserver la nature en changeant notre mode de consommation et en allant plutôt, en privilégiant plutôt des cultures, comme disait Guillaume, je veux dire, ça va avoir ses limites à un moment donné parce que le progrès nous rattrape.
Et je vois la ville d'Albi met dans ses jardins des potagers pour être en autosuffisance.
Vous avez parlé de jardins partagés. Vous connaissez un peu le principe, comment ça marche hein?
Ah, c'est des parcelles qui sont allouées chaque année à des gens pour qu'ils puissent cultiver leurs propres légumes.
Allouées gratuitement ou louées en fait?
Louées.
Louer. Et donc, dans cette location, ça comprend le prix de l'eau et tout ça?
Ah, ça, je sais pas.
C'est une question que je me posais, parce qu'on les voit en face de l'archipel, là, ces jardins partagés, et je me posais la question de savoir comment ça fonctionnait.
Je sais pas, faudrait voir avec la mairie pour voir comment ça fonctionne.
Vous voyez, Patricia, vous disiez que vous faisiez pas de jardin, parce que tout simplement, vous en aviez pas. Mais voilà, Guillaume nous donne une petite astuce. Là, il y a finalement pas très très loin de chez vous le principe des jardins partagés. Ça permet à des gens qui sont en appartement et qui vraiment aiment manger leurs propres et consommer leurs propres produits, ça permet de pouvoir y arriver. Karine, vous vouliez prendre la parole sur le sujet ?
Alors moi j'aime pas tellement jardiner, mais là j'ai par contre s'il y en a qui veulent pas entretenir spécialement des plantes ou des leur plantation, moi j'ai chez moi un cadre végétal stabilisé, je sais pas si tu connais.
J'ai plus ou moins j'ai vu ça pour des roses là qui étaient en fait les roses qui fanent pas en fait, elles sont dans de la cire ou je sais pas quoi et ça les maintient, c'est un peu le principe, c'est ça?
Alors, moi, j'ai un très beau cadre sur mon mur, avec stabilisé, ils doivent leur mettre un produit spécifique. Et là, ça bouge pas du tout. Les plantes, elles sont superbes. On voit même pas qu'elles ont du produit.
D'accord. Donc, vous avez un coin de verdure dans votre logement.
Ouais. C'est vrai que je connaissais pas. C'est très bien comme système...
Bon. Je vois que leur tourne, Leïla, vous vouliez rebondir ?
Je voulais juste... C'est juste pour dire, en fait, il y a des mésanges qui sont nés dans mon ancienne boîte aux lettres, comme l'année dernière. Donc c'est trop mignon, parce que je les entends piailler quand ils ont faim, et je vois les parents amener des petits asticots, etc., à leurs petits, et d'ailleurs, ils doivent se battre, les pauvres, contre ma chienne, parce que ma chienne, c'est une chienne de chasse, qui ne chasse pas, mais qui chasse les oiseaux dans le jardin. J'ai fait la guerre, mais bon, c'est comme ça. Enfin, je les ai bien préservés. Les petits, ils ont fait un nid, en fait, dans l'ancienne boîte aux lettres. Et l'année dernière, c'était pareil, mais j'habitais pas encore complètement la maison. Mais cette année, bon, je suis vraiment, vraiment bien installée depuis un an. Et du coup, les petits, ils sont... Donc, j'ai vu le nid entrer en fabrication. J'ai vu les œufs. Là, ils sont 6-7 nés. Maintenant, ils ont quoi? Ils ont 3 bonnes semaines. Donc, à mon avis, bientôt, ils vont pouvoir commencer à s'envoler. Donc, j'espère que je verrai ça parce que c'est trop mignon. L'année dernière, je les ai ratés quand j'étais absente le jour où ils se sont envolés du nid. Mais C'est trop mignon, quoi.
Donc, n'enlevez pas vos anciennes boîtes aux lettres. Hein. Bon, j'ai l'impression qu'elle vous occupe bien, votre chienne, quand même. Hein.
Oui.
On conclut cette séance pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous envoyez, Guillaume, comme musique hein?
Je t'emmène au vent de Louise Attac.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est